Bonjour Charles Grémond.
Bonjour.
En quoi et à quoi le Sahara est-il connecté ?
Alors effectivement, c'est le titre de cette exposition, Sahara, monde connecté. On avait envie de jouer un petit peu sur ce paradoxe entre les mots Sahara, vide, espace de recueillement, et le fait que la vie au Sahara est possible surtout dans la mobilité, dans la circulation.
Alors si vous deviez justement décrire la vie quotidienne, le Sahara tel qu'il existe, qu'est-ce que vous en diriez ?
Ce qu'on pourrait dire, c'est vraiment l'importance de la mobilité, c'est-à-dire que au Sahara, tout est mobile, y compris les lieux, à commencer par le pâturage par exemple. Les pâturages varient d'une année à l'autre, et donc c'est toujours pour faire la même activité, mais dans une vallée qui n'est pas toujours exactement la même. De même pour les marchés, qui se renouvellent en fonction des priorités. De même pour les moments de pause, que ce soit le voyageur qui va dérouler une natte sous un arbre, l'ombre, et tout le monde se rencontre s'il y a un campement et aux alentours, mais c'était également la question de la ville, c'est-à-dire qu'un arrêt, une pause, un carrefour commercial et intellectuel qui devient une ville, mais qui parfois aussi disparaît.
Alors il y a cette notion de mobilité, et pourtant vous parlez aussi de grandes villes qui émergent. Comment c'est possible ?
Alors absolument, donc ça c'est un phénomène aussi qui est peut-être moins connu encore que le phénomène urbain au Sahara est absolument capital, c'est-à-dire que ce sont les moments d'arrêt, de pause, de recueillement, de ravitaillement, d'échanges commerciaux qui structurent justement ces voyages et ces traversées depuis des siècles et des siècles au Sahara. Et il y a aussi donc un phénomène un peu plus contemporain. On fait un zoom par exemple dans cette exposition sur la capitale de la Mauritanie, sur Nouakchott, qui est une ville qui a jailli des sables juste avant l'indépendance, dans les années 58-60, et aussi les problèmes de subsistance qu'il peut y avoir dans une ville comme Nouakchott, avec des problèmes écologiques, avec une remontée des eaux, une salinité des eaux, etc., avec le désert qui progresse aussi sur la partie est, par exemple, et comment cette ville peut éventuellement se déplacer elle-même, parce qu'il ne sera plus viable d'être sur ce site. Donc c'est un peu mettre la focale sur ce qu'on appelle l'impermanence de toute chose, que tout le monde peut connaître, mais qui est particulièrement forte dans cet espace au Sahara.
Quand on parle de monde connecté, Charles Grémond, on pense aussi aux télécommunications. Quelle est leur place aujourd'hui au Sahara ?
Alors absolument, donc les télécommunications, nous par exemple on a une installation là dans l'exposition de smartphones qui ont fait leur arrivée au Sahara comme partout dans le monde, et les populations là du Sahara se sont emparées vraiment de ce média de manière totalement naturelle, parce qu'on est quand même sur des civilisations largement là de culture orale. Tous les petits villages dans le Sahara sont désormais équipés d'antennes pour capter le réseau, et il y a effectivement aussi, quand on est hors réseau, le développement de ces fameux téléphones satellites qui sont utilisés à la fois par les commerçants et par les groupes armés et puis par plein de gens.
Alors c'est une zone désertique, mais vous parlez des populations, ce n'est pas une zone vide. Qui vit dans le Sahara ?
D'abord, les populations sahariennes, donc on pourrait énumérer évidemment les populations touareg, il y a des populations barabophones qu'on appelle les Maures à l'ouest du Sahara, et plus on progresse vers l'est du Sahara, en partant vers l'est du Niger, vers le Tchad, notamment les Toubou, les Arawas, un peu plus à l'est encore, il y a effectivement toutes ces populations là, qui vivent, circulent dans le Sahara, et il y a aussi, donc on voulait mettre l'accent là dans cette exposition, sur les populations là, qui traversent cette zone-là, qui viennent du Proche-Orient, là, par exemple, qui viennent de l'Afrique subsaharienne, bien sûr, et qui se rendent pour travailler là, dans les pays du Maghreb. Toutes ces populations qui, parfois, sont en arrêt, sont empêchées dans leur mouvement, là, justement, et on voulait rendre un peu un hommage à ces populations et à la nécessité pour elles de pouvoir circuler, de pouvoir partir au Maghreb, de pouvoir revenir dans leur pays, en Afrique subsaharienne, par exemple.
Alors, pour finir, quelles sont les grandes mutations que l'on peut voir actuellement dans cette zone saharienne ?
Les grandes mutations, elles sont liées sans doute aux aspects économiques, effectivement. On est dans des économies sans doute de plus en plus de prédation, c'est-à-dire que pour les jeunes générations, tout ce qui est ramené là notamment à la captation là, des ressources, je pense notamment aux projets de développement, par exemple, aux ONG, qui deviennent des enjeux majeurs sur le plan politique aussi pour les populations et qui cherchent à capter ces financements. Et c'est à peu près la même logique à l'œuvre sur la question des trafics, par exemple. Le trafic de drogue s'est largement développé. On peut aussi parler là, de l'orpaillage. Là, actuellement, on a une fièvre de l'or là, qui redémarre en fait dans des coins très très reculés là, du Sahara. Donc, ces populations doivent développer leur économie avec ce que le monde extérieur peut apporter aussi. Mais ça reste des économies très très fragiles et qui justement nécessitent des connexions et des relations là, qui sont bien tenues dans le temps notamment.
Merci Charles Grémond.